clap.ca. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca.
Autre temps, autre mœurs. Les mots, la musique.
Bonjour et bienvenue à Midi Jazz. Je me prends toujours une heure plus tard. Ici Gilles Chaumel pour Autre temps, autre mœurs, les mots, la musique. Aujourd'hui, ce sont les mots de Dominique Fortier, autrice québécoise, autrice de grand talent, de haut niveau, je vous dirais, qui est née à Québec en 72, qui a toujours travaillé, enfin depuis longtemps, dans le monde de l'édition. Elle est à la fois romancière et traductrice. Titulaire d'un doctorat en littérature française de l'Université McGill, elle exerce les métiers de romancière et de traductrice, je disais. Je suis en train de lire la notice biographique de Wikipédia, c'est aussi simple que ça. Elle a plusieurs romans, dont Le bon usage des étoiles, qui a été mon premier contact avec son écriture, qui m'a jeté par terre, parce que on se retrouve dans le Grand Nord polaire où l'expédition de Stanley tente de trouver le chemin vers la Chine, si vous voulez, mais par le Nord. Et en même temps que la bonne société anglaise qui les a envoyés là, on a comme un portrait de ces deux extrêmes et aussi de la prétention qu'avaient ces Anglais de leur supériorité morale. Et puis, évidemment, ça a mal fini, on sait. Mais c'est un roman extraordinaire, c'est en 2012 que j'ai pu prendre conscience de ce roman-là, même s'il est sorti en 2008. Et depuis, je suis devenu un fan. J'ai lu La Porte du Ciel chez Alto, Au péril de la mer, dont on va parler aujourd'hui, Les villes de papier et Les ombres blanches dans l'univers de la poète Emily Dickinson, américaine, Quand viendra l'aube. Tout petit opuscule qui raconte le deuil, qui pense le deuil, P-A-N-S-E. Donc, aujourd'hui, on est dans le Au péril de la mer. C'est un voyage au Mont-Saint-Michel, dont les premières fréquentations datent du 6e siècle ou du 7e siècle. C'est un livre, Au péril de la mer, qui s'est mérité le prix du gouverneur général. En deux mots, aux belles heures de sa bibliothèque, le Mont-Saint-Michel était connu comme la cité des livres. C'est là, entre les murs gris de l'abeille, que trouva refuge au 15e siècle un peintre hanté par le souvenir de celle qu'il aimait. C'est là, entre ciel et mer, que le retrouvera 500 ans plus tard une romancière qui cherche toujours le pays des livres. Elle va le trouver. Il se rencontre sur les pages d'un calepin oublié sous la pluie. On commence. À Fred et Zoé, mari et fille, si je m'abuse. La première fois que je l'ai vu, j'avais 13 ans. Un âge dans les limbes entre l'enfance et l'adolescence, alors qu'on sait déjà qui l'on est, mais on ignore si on ne le deviendra jamais. Ce fut une sorte de coup de foudre. Je ne m'en rappelle pas grand-chose de précis, hormis une certitude, signe d'un émerveillement si profond qu'il en ressemblait à de la stupeur. J'étais arrivé à un endroit que j'avais cherché sans le connaître sans même savoir qu'il existait. J'ai passé 25 ans sans le revoir. Et quand le temps est venu d'y retourner, j'ai commencé par suggérer que nous n'y allions pas. Nous avions peu de temps avant de rentrer à Paris. On annonçait de la pluie. Il y aurait sans doute des hordes de touristes. En vérité, j'avais peur. Comme chaque fois qu'on revient sur les lieux de son enfance, de les trouver diminués, ce qui signifie deux choses. L'une, ou bien il ne nous était apparu grand que parce que nos yeux étaient petits, ou bien nous avions perdu en route la faculté d'être éblouis. Deux constatations également accablantes. Mais il n'avait pas changé, et moi non plus. Quel que soit l'angle sous lequel on le regarde, il est impossible de voir précisément où s'arrête le roc et où commence l'église. On dirait que c'est la montagne elle-même qui se resserre, se redresse, s'affine, sans intervention humaine pour donner forme à l'abeille. La pierre qui décide un matin de grimper vers le ciel et s'arrête 1000 ans plus tard. Mais il n'a pas toujours eu l'allure qu'on lui connaît aujourd'hui. La silhouette familière qui fait l'objet d'innombrables photographies, coiffée de la flèche où danse l'archange, date du 19e siècle seulement. Avant le 7e siècle, il n'y avait même pas de Mont-Saint-Michel. L'îlot rocheux où se dresse aujourd'hui l'abbaye était connu sous le nom de Mont-Tombe. Deux fois Mont, donc, puisqu'il semblerait que ce tombe ne désigne pas une sépulture, mais une simple éminence. Vers le 6e siècle, deux ermites vivaient sur ce mont-tombe, d'où ils avaient érigé deux petites chapelles, l'une dédiée à Saint-Étienne, le premier martyr chrétien, l'autre à Saint-Forien, à Saint-Symphorien, à qui l'on doit cette phrase à la fois étrange et lumineuse, prononcée lors de son supplice, « Le monde passe comme une ombre. » Leur existence se déroulait dans un isolement parfait. Ils consacraient leur jour à la prière et leur nuit à de saintes visions. Ils vivaient avec rien, possédaient chacun une coule, un manteau et une couverture, un couteau pour deux. Quand ils étaient à court de nourriture, ils allumaient un feu de mousse et d'herbe humide. Depuis la berge, les habitants apercevaient la fumée, chargeaient un âne de victuailles. La bête prenait seule le chemin de l'îlot pour ravitailler les saints hommes qui ne désiraient pas se souiller au contact de leurs semblables. Ils déchargeaient les provisions un peu à contre-cœur. Ils auraient bien voulu n'avoir besoin d'aucune nourriture que leur foi, d'aucune autre nourriture que leur foi. L'âne revenait par le même chemin, ses paniers vides. Claquant sur ses flancs, le pas léger dans le sable et la paix de la baie. D'une légende, ou une certaine variation de la légende, veut que l'âne ait un jour croisé le chemin d'un loup, qui l'a dévoré. À partir de ce jour-là, c'est le loup qui apportait à manger. En ce temps de grâce, 1400, on ne sait trop quoi, le mont se dressait au milieu de la baie. En son centre s'élevait l'abbaye. Au milieu de celle-ci était nichée l'église abbatiale autour de son cœur. Au milieu du transept, un homme était couché. Il y avait dans le cœur de cet homme un chagrin si profond que l'abbé ne suffisait pas à le contenir. Il n'avait pas la foi, mais l'église ne lui en tenait pas rigueur. Il est des peines tellement grandes qu'elle vous dispense de croire. Étendu sur les dalles, bras écartés, Éloi était lui-même une croix. certaines heures, l'abbaye est silencieuse et les salles désertes. Entre Mathilde et l'aude, il descend une lumière. Le temps s'arrête pour reprendre son souffle. Cette heure n'est pas pour le commun des hommes qui rampe tranquillement. Elle appartient aux malades, aux fous et aux amoureux. C'est l'heure où je me réveillais aux côtés d'Anna, assoupie pour écouter sa respiration légère. Elle avait pour dormir les postures les plus improbables, bas repliés, jambes en croix, comme si le sommeil s'était amusé à la faire aussi poser pour moi en rêve. Par la croisée, je voyais le ciel bleu océan foncé encore. À quelques minutes plus tard, il s'éclaircirait et la journée commencerait pour tout le monde, mais ce moment n'appartenait qu'à moi. Je me réveille encore à cette heure indistincte entre nuit et jour. C'est Éloi qui parle ou pas. Éloi, le peintre en amouré qui aura perdu cet amour et que l'on retrouva à hanter les corridors du Mont-Saint-Michel. Voilà pour l'aparté. Je me réveille encore, dit-il, à cette heure indistincte entre nuit et jour. Et plus d'un an après, je cherche toujours près de moi son corps endormi. Chaque fois, il me faut quelques secondes avant que je me rattrape ce simple fait. Elle n'est plus là. Je la perds à nouveau chaque matin, avant le lever du soleil. On pourrait croire qu'une même douleur éprouvée chaque jour va en s'amenuisant, en s'atténuant, comme la lame d'un couteau finit par s'émousser à force de trancher dans les chairs. Mais ce n'est pas vrai. Chaque jour, je la perds. Pour la première fois, elle n'en finit pas de mourir. Je ne suis pas homme de Dieu, je ne suis pas homme de science. J'étais peintre et ne le suis plus. Le peu que je connais du monde, je le dois aux récits de plus savants que moi. Voici ce que je sais. J'aimais une femme et elle est morte. Cette femme n'était pas la mienne. Elle était mariée à un autre. Mais elle n'appartenait à personne. Elle avait des cheveux de jais et des yeux d'une couleur que je n'ai jamais vue ailleurs, ni avant ni après. Ni depuis. Elle est aujourd'hui sous terre, rongée par les vers. Robert répond de mauvaise grâce aux interrogations que je lui fais sur le séjour des morts. Je voudrais croire, comme lui, qu'elle se trouve aux côtés de Dieu le Père, en son royaume, en compagnie des justes. J'ignore comment concilier ces deux idées. Se peut-il que le royaume de Dieu soit envahi par les vers et que chacun s'y promène à tâtons, défiguré les orbites vides? Ces questions me dépassent. J'essaie de ne point y penser, mais elles viennent me hanter en songe. Et puis, on sonne l'aude. Les moines se lèvent, se rendent dans une longue file à la chapelle, où ils chantent l'arrivée du jour nouveau. Thank you. Elle était fille d'un riche marchand, j'étais fils de rien. Assez bon peintre, j'avais fait mon apprentissage dans un atelier où l'on m'avait d'abord en confié le remplissage des paysages de fond sur lesquels d'autres, plus chevronnés, traçaient le portrait des fortunés et des puissants. Et puis l'on m'avait à mon tour permis de faire quelques ressemblances. Après quelques années, j'avais ramassé une clientèle suffisante pour laisser l'atelier et recevoir les acheteurs chez moi. J'avais tôt compris l'avantage de donner aux bourgeois la noblesse qui faisait défaut à leur visage. Ils se trouvaient plus beaux sur mes peintures que dans leur glace. Blâmaient leur glace. Revenaient me voir quand arrivait le temps de peindre leurs épouses ou leurs maîtresses. Bientôt, j'avais acquis une certaine notoriété. Il était devenu de bon ton pour les notables d'avoir une représentation de soi exécutée par Éloi Leroux. Je le dis sans vanité. La ville comptait peu de portraitistes et aucun qui travaillait aussi vite que moi, de sorte que je ne manquais pas d'ouvrage. Depuis quelque temps, je pouvais même me permettre d'en refuser. Parmi ce qu'on me proposait, je choisissais de préférence ce qui payait bien et avait une chance de m'amuser. J'avais depuis belle lurette cessé de peindre les notaires et les évêques dans leurs tristes robes. Pour le plaisir, je faisais plutôt des esquisses d'oiseaux en plein vol, picorant, occupés à bâtir leur nid ou à nourrir leurs petits. J'aimais leurs couleurs et le fait qu'ils ne tenaient pas en place. J'aimais surtout qu'ils soient absolument indifférents à ma présence. J'avais aussi commencé à dessiner des œufs qui me reposaient du reste. Si j'avais accepté cette semaine-là de faire le portrait d'une jeune fille à marier, c'était pour rendre service à un ami qui devait quelques faveurs à la famille. J'avais tout de même pris la précaution de demander si elle était jolie. « Je n'en sais rien, » avait répondu l'ami. « Je sais qu'elle est jeune. » C'est déjà ça, ai-je répondu, en m'imaginant l'une de ces pâles juvencelles dont on faisait exécuter la ressemblance quand on avait résolu de les donner à un seigneur lointain et suspicieux qui demandait à voir avant de s'engager. Le matin de la première séance, tandis que je posais la main sur un panneau de peuplier pour m'assurer qu'il ne restait plus de traces des charles ou d'éclisses, je me préparais déjà à égaliser le teint rougeau, à adoucir la courbe du menton ou à raccourcir le nez trop long quand elle était entrée, escortée d'une gouvernante. Du coin de l'œil, j'avais vu qu'elle était mince et brune, mais je ne m'étais pas retourné tout de suite, la laissant examiner le drap devant lequel elle devait s'asseoir et qui représentait sommairement dessiné un chemin serpentant dans la campagne. Au cours des ans, j'avais remarqué ceci. Les gens qui s'apprêtaient à se faire représenter en peinture éprouvaient presque toujours de l'embarras. Dans leur gêne, ils trahissaient quelque chose qu'ils s'efforçaient ensuite de me cacher pendant de longues heures de pause et qui faisait malgré eux partie de leur portrait. Ce malaise où il se révélait sans l'avoir voulu était comme le fond du tableau. Invisible, mais présent. Et qui teintait le reste. Mais quand j'avais fini par me retourner, elle était appuyée sur le faux de steuil que j'avais sorti à son intention, et elle me considérait calmement de ses yeux dont, aujourd'hui encore, je ne saurais nommer la couleur. De saisissement, j'avais laissé tomber la brosse que je tenais à la main, et, dans un mouvement pour la rattraper, j'avais renversé le bol d'eau. « Ne soyez pas nerveux, tout ira bien », avait-elle dit, avec un léger sourire. Ma vie en eût-elle dépendu, j'aurais été incapable à ce moment de dire si elle essayait sincèrement de me réconforter ou elle se moquait de moi. Le premier jour, je n'avais fait que l'ovale du visage, de son visage, dessiné de face, de trois quarts, baigné de lumière du midi, entrant à flot par la fenêtre, de profil, rideau à demi tiré, à la lueur d'une bougie qui en laissait une part dans l'ombre. Le deuxième jour, j'avais tracé la coiffure simple qui tirait en arrière sur ses boucles noires, esquissé son front haut et l'arc de ses sourcils sur sa peau blanche. Le troisième jour, j'avais passé la séance entière à l'observer, et à examiner mon panneau de bois, presque vierge encore, comme pour mesurer la distance qu'il y avait de l'un à l'autre. M'approchant d'elle, j'avais tendu la main pour replacer une mèche de cheveux, mais la gouvernante m'en avait empêché, et elle avait elle-même remis la boucle folle derrière l'oreille, tandis qu'Anna restait immobile à regarder droit devant elle. Le quatrième jour, je lui ai expliqué qu'il me faudrait au moins une semaine encore pour mener à bien le portrait. Prononçant ces paroles, je songeais, un mois au bas mot, deux peut-être. Nous sommes dans l'univers de Dominique Fortier, dans son roman au recueil « Au péril de la mer » publié chez Alto en 2008, et qui est un prix du gouverneur général, rien de moins. On passe à la pause et on revient pour la suite des choses.
Salut, ici David Bugeaud de Fudge. Cette année, on a l'honneur d'être porte-parole artistique du Radioton de CKRL. Les 26, 27 et 28 avril prochains, on t'invite à te joindre à nous autres et à donner généreusement. Parce que CKRL, c'est une radio différente qui joue un rôle essentiel à la culture d'ici. Le Radioton de CKRL, c'est le rendez-vous annuel pour soutenir ta station communautaire préférée. Manque pas ça!
Vous adorez le sport? Vous êtes un fan inconditionnel de vos équipes préférées? Eh bien, ne cherchez plus! Logo Sport est la référence à Québec. Logo Sport, la seule boutique dédiée à 100% aux produits officiels de vos équipes sportives favorites. Que ce soit la LNH, la NFL, la MLB, la NBA, peu importe, nous l'avons. Mentionnez CKRL lors de votre visite pour obtenir une réduction exclusive de 15% sur tous nos produits à prix réguliers. Logo Sport, la référence à Québec pour les vrais fans de sport. 1028 rue Saint-Jean, logosportqc.com.
Vous cherchez des produits biologiques de qualité à Québec? Ne cherchez plus. Alimentex, la première épicerie biologique depuis 1969, est là pour vous. Située sur la 1ère avenue, coin 12e rue à Limoilou, nous avons tout ce que vous avez besoin en un seul endroit. Visitez alimentex.ca pour en savoir plus.
À l'occasion de leur activité de financement annuel, le jeudi 9 mai, l'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec vous invite à une conférence de Catherine Vachon sur le thème « Il n'y a pas de hasard ». L'activité débutera par un cocktail et un échange avec la conférencière. « Il n'y a pas de hasard » le jeudi 9 mai à 18h à la scène Le Bourgneuf. Pour acheter vos billets au coût de 50 $, rendez-vous sur lascenelebourgneuf.com.
Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz et de la bossa nova avec Eliane Elias et Mark Johnson.
When I look in your eyes, I see the two of us.
Mariant ses racines brésiliennes, sa voix et son jeu de piano dans un style unique, la talentueuse artiste vient partager son répertoire en compagnie du respecté contrebassiste. Ne ratez pas cette performance en duo attendue pour les deux artistes récipiendaires de prix Grammy. Le 4 mai, soyez aux premières loges pour le jazz brésilien d'Eliane Elias et de Mark Johnson au Palais Montcalm.
Autre temps, autre mœurs. Les mots, la musique.
De retour à Autre temps, autre mœurs, les mots, la musique, toujours dans l'univers de l'écrivaine québécoise d'origine, Dominique Fortier, qui s'est mérité le prix Renaudot de l'essai en 2020 pour les villes de papier. En 2016, le prix du gouverneur général pour Au péril de la mer, du même, puis du bon usage des étoiles, elle est récipiendaire du prix des gens de la mer. Elle est aussi traductrice, entre autres, des romans de Heather O'Neill, la romancière montréalaise, bien connue et ardente écrivaine. Un personnage, elle aussi. Donc, au péril de la mer, le premier sanctuaire, on est dans l'histoire d'Éloi Leroux, peintre qui a perdu sa douce, enfin, elle est décédée. Et il est allé s'installer chez les moines. Chez les moines du Mont-Saint-Michel. Le premier sanctuaire dédié à Saint-Michel a été aménagé en 708, à même le roc du Mont-Tombe, à la manière de celui du Mont-Cargan, dont il s'inspirait. Avant cela, il n'y avait rien qu'un trou dans le crâne d'un évêque. Notre-Dame sous terre avait en effet été construite sur les ordres d'un saint homme, à la tête percée pour répondre à l'injonction d'un archange, et cela sur le conseil d'un taureau, raison pour laquelle, sans doute, on l'appellera plus tard le corps de l'abbaye, la merveille. L'histoire va comme suit. Aubert, très sage et très pieux évêque d'Avaranches, reçut en rêve la visite de l'archange Michel, qui lui ordonna de bâtir un sanctuaire. Oublieux ou distrait, en tout cas pas suffisamment empressé, le saint homme n'obtempéra pas sur le champ. L'ange, en sa mansuétude, lui fit une deuxième visite, puis une troisième. Cette fois-là, pour bien se faire comprendre, il posa son doigt de feu sur la tempe du dormeur, creusant dans l'os un trou que l'on peut admirer encore aujourd'hui, car le crâne d'Aubert repose, ainsi que son trou, à la basilique Saint-Gervais d'Avar. L'évêque envoya donc quelques clercs à Mont-Cargan, en Italie, d'où ils revinrent avec un morceau de manteau écarlate de Michel, ainsi qu'un fragment de l'autel où il était posé et où l'on voit encore la trace de son céleste pied. Ces précieuses reliques firent bientôt sentir leur effet. Un aveugle du hameau d'Astériac, à quelques lieues du mont, recouvra soudainement la vue. On raconte qu'elle s'écria « Comme il fait beau voir !» Et le village changea de nom. Et on le connaît encore aujourd'hui sous celui de Beauvoir. Aubert, donc, choisit donc diriger le sanctuaire sur l'îlot du Mont-Tombe, désert depuis le départ des deux ermites le siècle précédent. On y amena un taureau, animal fruste mais puissant, que l'on attacha à un piquet en décrétant que l'abbaye s'élèverait là où la bête aurait foulé l'herbe de son sabot ancien. Hésitant encore entre les dimensions données au sanctuaire, l'évêque reçut un nouveau signe, la rosée pendant la nuit recouvrit le sommet du mont, à l'exception d'un endroit demeuré sec. De forme circulaire, il pouvait accueillir une centaine de personnes. C'est là finalement que sera construite Notre-Dame sous terre. Ici finit la légende, commence l'histoire, mais l'histoire de la construction, il vaudrait sans mieux dire des constructions, des bâtiments du Mont-Saint-Michel, est pleine de trous, de conjectures et de suppositions. On a beau consulter les ouvrages les mieux documentés, étudier des plans exécutés à différentes époques, annoter le tout, ou même scruter les petites maquettes exposées sur place, on n'arrive pas à se faire une idée exacte, ni de l'ordre dans lequel se sont effectués ces travaux, ni l'apparence du mont à aucun de ces moments. Certaines choses semblent cependant à peu près sûres. L'édification de l'église abbatiale débuta vers 1017 et dura une soixantaine d'années. Le roc étant trop dur pour être entamé, on construisit autour, et la montagne continue toujours d'affleurer en mes endroits. Cela contribue sans doute au vertige qui nous prend quand on essaie de s'y retrouver dans le dédale, réel ou sur papier, qu'est le Mont-Saint-Michel. Le fait que l'abbaye est bâtie, non pas au sommet d'une montagne, mais tout autour, toujours est-il que l'intérieur ne ressemble en rien à ce que laisse présager l'extérieur et que le tracé des plans ne permet d'appréhender ni l'un ni l'autre d'une certaine façon. Cette abbaye est indicible.
Thank you.
Anna était venue toquer à ma porte, raconte Éloi dans ses souvenirs. Quelques jours avant son mariage, elle était comme toujours accompagnée de sa gouvernante, mais celle-ci, plutôt que de l'escorter à l'intérieur, avait fait un geste de la main, comme pour la bénir ou la mettre en garde avant de tourner les talons. C'était le milieu de la nuit. J'avais cru que je rêvais. Il m'arrive encore parfois de le croire. Elle était entrée en souriant, et par habitude, je l'avais amenée à l'atelier qui était à cette heure plongé dans l'ombre. Les deux portraits étaient posés côte à côte sur deux chevalets. Je devais rendre le premier le lendemain matin. Puis elle m'avait dit, comme si je pouvais l'ignorer, « On me marie dans 3 jours. » J'ai acquiescé en silence. Elle avait poursuivi. « Je n'ai encore jamais vu celui qui doit devenir mon mari. » Mais on me dit qu'il est très grand et très riche. Elle avait ajouté, pour faire bonne mesure, « C'est un seigneur très puissant. » De nouveau, j'avais hoché la tête. Eût-il été sourd, infirme et bossu, j'aurais quand même été jaloux de cet homme. C'était étrange de la voir debout face à 2 portraits, dont l'un la montrait sage et posée, et l'autre comme sous l'effet d'une tempête invisible. Pendant quelques instants, je n'avais plus su laquelle des 3 Anna était la vraie. Celle-ci s'était retournée et avait observé. « Vous ne dites rien. Que souhaitez-vous que je vous dise? Nous ne nous reverrons plus jamais après-demain. En aurez-vous au moins un peu de chagrin? » J'avais chancelé. Et, afin de me donner une contenance, je lui avais tourné le dos pour gagner la fenêtre. Les maisons étaient noires de l'autre côté de la rue. La nuit fourmillait d'étoiles. Je l'avais entendu se déplacer pinceaux et couleurs sur ma table. Quand je m'étais retourné, elle avait à la main un morceau de fusain. « Je voudrais, moi aussi, faire votre portrait », a-t-elle dit. J'ai allumé une bougie, trouvé une feuille et la lui ai tendue. Elle s'est assise par terre et m'a invité à faire de même. Puis le fusain, suspendu en l'air, elle est restée un long moment à m'observer. Enfin, plutôt que de porter la pointe sur la feuille, elle s'est approchée de moi, a tracé délicatement l'arcade sourcilière, l'arête du nez, la ligne de la pommette et la courbe du menton, jusqu'à avoir dessiné un masque de nuit sur mon visage. Du pouce, elle a effacé un trait au coin de ma bouche, puis ses lèvres ont remplacé son doigt. Nous nous sommes déshabillés lentement, en silence. Nous découvrons, avec une sorte d'étonnement, elle avait une taille de sablier, la peau douce, un grain de beauté sous le sein gauche, à la place du cœur. Nous nous sommes allongés, membres emmêlés sur les couvertures, où j'ai passé des nuits à rêver d'elle. Quand nous nous sommes relevés, à l'heure où s'éteignent les étoiles, nos corps sont restés dessinés dans les plis des draps.
Thank you.
On est au monastère, après l'aude, à l'abbaye. Après l'aude, Robert m'a traîné, et Robert étant le prieur, traîne notre ami Éloi sur les murailles de l'abbaye de Saint-Michel. Et nous avons regardé le soleil se lever. Dans la lumière, l'abbé était rose comme l'intérieur d'un coquillage. J'aurais tout donné autrefois pour pouvoir capter semblable lumière avec un tableau. Aujourd'hui, sa beauté me demeure étrangère. Elle me parle une langue oubliée. Nous avons aperçu en même temps le groupe de pèlerins s'avançant lentement vers le mont. Il pouvait être une soixantaine, peut-être davantage. Curieusement, ils ne grandissaient pas en approchant, comme le font toujours les choses lorsque on diminue la distance qui nous sépare d'elles. Ou du moins, ils ne grandissaient pas suffisamment. À Saint-Oise du Mont, on aurait encore dit une armée miniature, sale et déguenillée, comme les soldats, dont les soldats marchaient vers l'abbaye, de l'eau jusqu'aux chevilles. Les deux à l'avant portaient la croix et le bourdon. « Qui sont-ils ? » demandai-je à Robert. « Des enfants. » Et il a récité à mi-voix. « Une M seule comme semble. 3C, 3X, 1, 3, 1, ensemble. L'an 1333. À Saint-Michel, sa grande fiance fit venir au Mont-Garantois des pastoureaux, grande abondance. 100 ans plus tard, les petits pèlerins avaient repris les chemins du paradis. La nuée des pastoureaux. La nuée de pastoureaux ont franchi la porte du roi en une longue file désordonnée qui sont entrés dans le village en pente. Ils ont entamé la montée vers l'abbaye par le grand degré, silencieux, décidé. Leur pas léger faisait sur les pavés un crépitement qui rappelait celui de la pluie. Si vous avez l'occasion de lire ce « Au péril de la mer », cette histoire à la fois d'amour, d'architecture, de livre, je vous invite à le faire. Nous étions dans l'univers de Dominique Fortier, « Au péril de la mer » au Mont-Saint-Michel. Paru en 2008 et qui a obtenu en 2016 le prix du gouverneur général. On se retrouve de l'autre côté de la pause pour Midi Jazz. Pour l'instant, on écoute le Qui Habitat hallucinant de Josquin Després. C'est Gilles Chaumel au micro. À tantôt. Thank you.
participez à l'événement radiophonique incontournable de l'année, le Radioton de CKRL. Pour cette occasion spéciale, la station se transformera en véritable cabaret, mettant en lumière des artistes de Québec. Au programme, spectacles, performances, discussions et tables rondes. Le Radioton vous est présenté grâce aux partenaires majeurs suivants. La Boîte à pain, la Corrigane, le Bal du Lézard, Audiolite, Alimentex, Atémi, les cinémas Le Clap, Sainte-Foy et Loretteville et Hôtel Château-Laurier. Du 26 au 28 avril, ne manquez pas ça!
Dans le cadre du 40e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL 89.1 est fier de collaborer à la présentation du concert Community Ensemble with Harry Brown de l'ensemble Natural Information Society mené par Joshua Abrams le vendredi 17 mai 2024 à 22h. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
La Rotonde présente Bordélique, un spectacle de danse qui plonge dans les rêves et cauchemars de la créatrice Mélissa Martin, alias Melmaze. Trois interprètes nous embarquent dans une épopée colorée et débordante d'énergie. Créatures fantastiques, danse urbaine, Bordélique, c'est un spectacle adressé à l'enfant qui sommeille en vous. À voir du 17 au 20 avril à la Maison pour la danse. larotonde.qc.ca.
Salut, ici Dominique Girard. Vous aimez les sports en général? Pour rester informé sur les derniers enjeux sportifs, je vous invite à écouter tous les mardis à 14h l'émission La Mi-temps. En compagnie de mes collaborateurs chevronnés, nous discutons de la scène sportive sous tous ses angles. C'est un rendez-vous.
La Mi-temps vous est présentée par Alimentex, épicerie certifiée biologique spécialiste en produits naturels, et par Logosport, la seule boutique dédiée à 100% aux produits officiels de vos équipes sportives, la référence à Québec pour les vrais fans de sport.
Ici Pierre Dolbecq qui vous invite à la deuxième édition du Diapason Fest qui aura lieu le 9 mai prochain au Quartier de Lune. Un spectacle bénéfice dont les profits seront remis à CKRL et à la Fondation Emplisson, avec des prestations des artistes émergents suivants. Juillet, Uriel, Hidden Bliss et Pretty Smile. Joignez-vous à nous pour encourager notre scène locale émergente. Les billets pour le Diapason Fest sont en vente sur le pointdevente.com au coût de 25$.
Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images.